Pas de grand show à l'américaine. Coronavirus oblige, le lancement de la campagne électorale américaine a des airs de téléconférence cette année. Une semaine avant les Républicains, les démocrates ouvrent le bal. Maire de grande ville, anciens rivaux comme Bernie Sanders, stars de séries comme Eva Longoria, ou encore l'ancienne première dame Michelle Obama. Pendant 4 jours, les fidèles soutiens de Joe Biden chantent les louanges de leur candidat avant son investiture officielle par le parti.
Il faut qu'on vote comme on l'a fait en 2008 et en 2012. Il faut qu'on fasse preuve de la même passion et qu'on place le même espoir dans Joe Biden.
Néron jouait du violon pendant que Rome brûlait. Trump, lui, joue au golf. Ses décisions pendant la pandémie ont débouché sur 170 000 morts.
La meilleure défense, c'est l'attaque. Le coronavirus et ses effets dévastateurs sur la société et l'économie américaine sont le talon d'Achille de Donald Trump. Le président candidat est en difficulté dans les sondages. Lui qui doit être investi la semaine prochaine tente pourtant de retourner la situation à son avantage.
J'ai confiance. On va gagner. On l'a fait. On a construit la meilleure économie dans l'histoire du monde. Et maintenant, je dois le faire à nouveau. Vous savez pourquoi ? C'est Dieu qui me teste. Il sait que je l'ai déjà fait une fois. Je lui ai dit, alors, j'ai fait du bon boulot, hein ? Je suis le seul à pouvoir faire cela. Il a répondu, tu ne devrais pas parler ainsi. Maintenant, tu vas devoir tout reprendre à zéro.
À 2 mois et demi du scrutin, Donald Trump semble encore croire en un miracle. Est-ce que Trump peut encore gagner ? Climat, Iran, Chine, Europe, qu'est-ce qu'une élection de Joe Biden changerait pour le monde ?
Que se passerait-il si Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite, François Clémenceau ? 2 mois et demi vont s'écouler entre le jour de l'élection, le 3 novembre, et l'investiture du président élu le 20 janvier. Si Joe Biden, imaginons, l'emportait le 3 novembre, que pourrait faire Donald Trump pendant ce laps de temps de 2 mois et demi qui suivrait l'élection ?
C'est une question totalement hypothétique et en plus un peu invraisemblable. Il n'y aura pas de résultat le 3 novembre au soir. Et c'est ça que les gens doivent bien comprendre. Parce que si effectivement le vote par correspondance, même à un faible niveau, finit par s'organiser à cause de la pandémie, on n'aura pas tous les résultats le 3 novembre. On aura des indications, mais on n'aura pas forcément de gagnant. Ni le 4, ni le 5, peut-être même ni une semaine après. Et donc la question, c'est comment Donald Trump va vivre ce laps de temps entre le soir du 3 novembre et, mettons, une semaine ou 15 jours plus tard. Est-ce qu'il acceptera de rester neutre, c'est-à-dire aux commandes pour gérer les affaires courantes en attendant d'avoir des résultats officiels, ou est-ce qu'il proclamera dès ce soir-là sa propre victoire, quitte à ce que, évidemment, ce soit plus compliqué ensuite, au moment où on dépouillera les votes par correspondance, qu'il qualifie d'ores et déjà, oui, avant même que l'élection ait eu lieu, de fraude, et donc ce sera extrêmement compliqué. Donc il y aura de la tension, et ce sera dans cette tension-là qu'effectivement ce sera très compliqué de voir les États-Unis vivre cette période de transition. Elles sont toujours compliquées, mais celles-ci risquent d'être encore plus compliquées que les précédentes.
Alors, Xavier, en ce moment, c'est vrai que tout le monde a les yeux rivés sur les sondages, et c'est justement votre chiffre du jour.
Oui, 27%, c'est la probabilité pour que Donald Trump remporte l'élection présidentielle, contre 72% pour Joe Biden. Alors, deux remarques, cette probabilité, elle a été établie par un site américain spécialisé dans le journalisme de données qui est plutôt fiable. Bon, mais deuxième remarque, en 2016, à la même époque, c'était pas très différent, c'était pas 27%, mais c'était 29% pour Trump seulement. Donc, il est très loin d'avoir perdu. Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de l'emporter, Gérard Olivier ?
Mais écoutez, tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et le jour de l'élection. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément se fier au sondage. D'abord parce qu'aujourd'hui, les supporters de Trump ne vont pas forcément dire qu'ils le sont. Il y en a certains qui le font consciemment, d'autres inconsciemment, pour faire mentir les sondages. D'autre part, un certain nombre de gens sont déjà décidés. Vous avez des démocrates qui voteront contre Trump ou Biden. Vous avez les supporters de Trump qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive. Et entre les deux, vous avez un certain nombre d'indépendants ou d'indécis qui vont se décider d'ici 2 mois. Si l'économie redémarre, si la pandémie se replie, et si on a le temps de voir les effets de cette économie, on se retrouvera dans une situation qui est un petit peu celle où on était avant la pandémie, au mois de février, au mois de mars, et Donald Trump aura beaucoup plus de chances de passer. S'il arrive quoi que ce soit à Joe Biden, Joe Biden est un homme âgé, mais non seulement il est âgé, il est fatigué, et ça se voit. Comment est-ce que ça va se passer si effectivement il y a un débat entre les deux hommes. Est-ce que pendant 2h30, il va être capable de supporter le feu d'un Donald Trump? Tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte et peuvent faire en sorte que Trump y arrive alors qu'on ne s'y attend pas.
Alors, Laurent Saïm, le correspondant du journal Le Monde, Arnaud Le Parmentier, a écrit cette phrase, je trouve qu'il résume bien, c'est, il dit, Donald Trump ne peut pas gagner, mais Joe Biden peut perdre. Ça veut dire, en gros, est-ce que c'est aussi sa réputation de gaffeur, ses sorties aussi qui peuvent à un moment le faire perdre et lors des débats, à un moment le rendre fragile face à Donald Trump?
Alors moi, je pense que la donnée la plus importante, c'est l'âge des deux candidats. On a Donald Trump qui a 74 ans, on l'a vu il y a quelques semaines qui avait des problèmes de santé, hein. On l'a vu rentrer d'un grand meeting, sortir de l'hélicoptère, il titubait. Il joue d'ailleurs très savamment dans ses déclarations et dans ce meeting qu'il avait fait il y a quelques semaines sur « je suis en forme », il a démontré pendant 10 minutes qu'il savait tenir un verre d'eau. Il a quand même 74 ans et il y a, quand on le suit quotidiennement, beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur l'état de santé de Donald Trump, qui a été hospitalisé au Walter Reed Medical Hospital de Washington il y a quelques mois, et on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Il y a eu beaucoup de déclarations contradictoires. L'autre aspect, c'est Joe Biden qui a 77 ans, qui a des problèmes de mémoire. On le voit, qui fait très attention à chacune de ses apparition publique en direct. Et vous avez raison de le dire, on ne sait pas lors d'un débat télévisé si en direct pendant 2 ou 3 heures, Joe Biden va tenir. Et il y a un thème de campagne qui est en train de s'inscrire, qui est le thème de la santé, avec Donald Trump qui exige que Joe Biden fasse des tests cognitifs. Et en ce moment, Joe Biden refuse toujours. Et je crois que l'état de santé de ces deux candidats âgés, c'est quelque chose vraiment à surveiller dans cette campagne.
Ouais, Xavier.
Oui, il y a aussi une question qui est largement montée quand même depuis la mort de George Floyd, qui est la question identitaire, qui est très fortement, qui se polarise énormément. Ça joue en faveur de qui dans cette campagne, vous pensez? Alors,
au départ, ça joue en faveur des démocrates. Mais vu l'évolution des choses, pour moi, c'est en train de jouer en faveur des républicains. C'est-à-dire qu'on observe un retour de bâton. Les émeutes qui, au départ, étaient parfaitement justifiées, les manifestations qui, au départ, étaient parfaitement justifiées, ont dégénéré en émeutes qui ont duré au-delà du nécessaire. Les Américains moyens, les Américains de l'intérieur, les Américains aiment la loi et l'ordre. Ils veulent vivre en sécurité parce que sans sécurité, on ne fait rien. Si vous parlez de ne plus financer la police, et qu'en même temps, vous avez des voyous qui investissent la rue et des émeutes avec des meurtres tous les soirs. Les chiffres de la criminalité sont en train d'exploser dans un certain nombre de métropoles. Vous avez de la part des électeurs un vote refuge où ils ne veulent pas de ce désordre. Ils se rabattent sur le candidat de la loi et de l'ordre. Et ce candidat, c'est Trump.
Et pourtant, François Clemenceau, donc George Floyd, donc cet homme noir tué par un policier blanc, hein, au début de l'été, on a vu ce mouvement mondial. Est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut avoir une réaction dans les urnes ou tout simplement des abstentionnistes?
Oui, c'est très important, l'abstention et la mobilisation. C'est évidemment une clé de cette élection. Mais j'allais dire, on est quand même malgré tout, et au-delà de ce que disait Olivier, dans un référendum pour ou contre Trump. Et c'est pour ça que c'est un peu une élection par défaut. Et c'est pour ça que les faiblesses de Biden ne jouent pas tellement contre lui. Elles pourraient jouer en faveur de Trump. Mais j'allais dire, les électeurs, au final, se décideront sur est-ce qu'on veut 4 ans de plus avec cet homme-là, avec ses outrances, avec ses dérives, avec parfois ce qui rassure 35 à 40% de l'électorat américain, ou est-ce qu'on veut en finir, tourner la page et passer à autre chose avec un homme qui est certes âgé, mais qui semble beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus proche finalement de l'Amérique réelle et un peu plus loin de cette Amérique identitaire qui part dans cette aventure pas contre l'Amérique elle-même, mais contre le monde entier. Et de ce point de vue-là, Biden offre des garanties de stabilité vis-à-vis du monde qui entoure les États-Unis, qui est aujourd'hui très très effrayé par la tournure des événements.
On va en prendre compte que c'est une question qui revient quand même à chaque élection américaine.
Oui, le vote noir c'est important, mais le vote noir il est traditionnellement démocrate. Moi ce que j'ai envie de dire, et je rejoins un peu ce que nos deux interlocuteurs ont dit, c'est ce qui se passe sur l'Amérique Floyd. C'est pas simplement une Amérique qui dénonce les brutalités policières, c'est une Amérique anti-Trump. Et ce qui me frappe aussi en parlant avec des gens dans les manifestations, c'est une Amérique qui rejette les politiques. Or Joe Biden, pour cette Amérique-là, représente la politique traditionnelle, représente quelqu'un qui a été au pouvoir pendant des années, représente le camp Clinton qui n'est pas aimé par cette Amérique qui est dans la rue. Et aux États-Unis, vous avez à chaque élection 49% des gens qui votent d'un côté, 49% des gens qui votent d'un autre. C'est un suffrage très compliqué. Et il y a ces 2%, ces indépendants qui, d'un seul coup, dans certains États, basculent pour le camp démocrate ou le côté républicain. Ces indépendants, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'Amérique Floyd, dans une Amérique qui rejette les politiques. Et c'est eux qu'il faut capter pour leur dire allez voter. Et on l'a bien vu cette semaine avec Michelle Obama, ses interventions. Ils sont très inquiets, les démocrates, que les gens n'aillent pas voter. Et il y aura vraiment à prendre en compte aussi ces indépendants qui comptent, déçus par les hommes et femmes politiques et qui doivent aller voter pour que Joe Biden puisse passer.
D'ailleurs, hier, à la Convention démocrate, son discours, Michelle Obama avait un collier avec marqué « vote » dessus. Donc pour voilà.
Oui, mais voilà. Ils veulent que les jeunes aillent voter et l'Amérique Sanders, pour le moment, est unie par force avec l'Amérique Biden, mais c'est une Amérique, l'Amérique Sanders, qui est très proche de Black Lives Matter et qui n'est pas complètement convaincue par l'Amérique que propose Joe Biden.
Alors Sonia, on va voir avec vous que la présidentielle américaine se joue bien sûr dans les urnes, mais également dans les boîtes aux lettres.
Et oui, le vote par correspondance est courant aux États-Unis, mais cette année, avec la crise sanitaire, évidemment, il devrait attirer un nombre record d'électeurs. Selon le New York Times, 76% des Américains pourraient voter par correspondance, ce qui représenterait près de 80 millions de bulletins envoyés par courrier. Mais ces bulletins arriveront-ils à temps? C'est la question qui se pose depuis que la Poste américaine a récemment fait savoir qu'elle ne serait peut-être pas en mesure de les acheminer, hein, tous ces bulletins, à temps pour qu'ils puissent être comptabilisés. L'agence fédérale américaine qui est chargée de distribuer le courrier, dirigée depuis peu par un proche de Donald Trump, chercherait-elle à limiter la portée du vote par correspondance pour favoriser le candidat? Le débat fait rage ces derniers jours aux États-Unis, d'autant que Donald Trump lui-même a reconnu qu'il n'entendait pas faciliter ce vote, synonyme selon lui de fraude massive, mais aussi il le reconnaît, un vote qui favorise ses adversaires démocrates. Alors Laurent Saïm, est-ce que Donald Trump a raison de considérer que plus il y aura de votants, moins il aura de chances de gagner?
Je crois d'abord que voter aux États-Unis, c'est très compliqué. Je crois que les Français ne s'en rendent pas compte. Vous allez passer votre permis de conduire et on vous dit pour quel parti êtes-vous, démocrate, républicain ou indépendant, et c'est marqué sur votre permis de conduire. Il n'y a pas de carte électorale. Et donc, pas dans tous les États, mais dans une majorité d'États. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Et je crois que le vote par correspondance provoqué par la pandémie, c'est-à-dire on aura peur d'aller dans un bulletin de vote, donc on va voter par correspondance, c'est quelque chose qui va vraiment jouer dans l'élection 2020, et on en parlait avant de venir sur ce plateau avec François Clémenceau et vous, il peut y avoir une attente absolue, hein, et une pagaille, et un scénario comme on avait vu entre Al Gore et Bush, qui sera vraiment complètement dingue par rapport à ce qui s'est passé en l'an 2000, avec beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée des votes par correspondance.
Mmh. Biden pourrait revenir dans l'accord nucléaire iranien dont Donald Trump était sorti, mais accord qui avait été voté quand lui-même, Joe Biden, était vice-président de Barack Obama.
La réponse est oui. Et pour le coup, il y a un certain nombre de dossiers de politique étrangère qui divisent les démocrates entre eux. Par exemple, la question d'Israël, où les partisans de Sanders sont vraiment très opposés aux partisans de Biden. Mais sur l'Iran, il y a une forme d'unanimité au sein de l'appareil démocrate. Il faut revenir dans l'accord sur le nucléaire. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'ayatollah Khamenei, c'est juste pour que l'Amérique puisse retrouver ses alliés, y compris d'ailleurs les Russes et les Chinois qui ont co-signé cet accord, pour faire en sorte qu'on en revienne à une forme d'apaisement. La pression maximale n'a jamais marché ces 4 dernières années. Et donc oui, Joe Biden veut apaiser un certain nombre de relations internationales très importantes. L'Iran, mais aussi la Chine. C'est-à-dire que même s'il est d'accord sur le diagnostic avec l'administration Trump sur le fait que la Chine est aujourd'hui dans une forme d'hostilité grave vis-à-vis des États-Unis, il est contre la méthode qui est employée. Encore une fois, c'est très important de distinguer tout ça. C'est la même chose pour l'Europe. Les États-Unis, depuis toujours, ont considéré que l'Europe était un partenaire, mais parfois aussi un concurrent. Le fait que Donald Trump ait mis sur un pied d'égalité l'Europe et la Chine, pour les démocrates et pour Joe Biden en particulier, c'est absolument innommable. Et donc, il veut rétablir ses relations avec les alliés traditionnels, l'Europe, Israël, le Japon, un certain nombre d'États au Proche-Orient, et faire en sorte que ce monde-là soit beaucoup plus apaisé que celui qu'on a connu dans l'imprévisibilité totale avec Donald Trump.
Donc on serait, Gérard Olivier, que dans une histoire de méthode de différence entre les deux hommes. Par exemple, Joe Biden a dit qu'il voudrait revenir sur l'accord sur le climat de Paris.